Salle 1. Dans cette première salle du musée, vous pouvez voir une sélection de matériaux correspondant aux différentes périodes de la préhistoire, de la culture ibérique et des phases républicaines et romaines haute impériale. Par rapport à la préhistoire, on peut affirmer que toutes ces périodes correspondantes sont représentées dans les collections du musée, du paléolithique à la fin de l'âge du bronze. Parmi toutes ces phases sur le territoire de Montemayor, la période correspondant à l'âge du cuivre. Autre, la multitude de découvertes correspondant à ce moment. Nous avons l'existence d'une ville de dimensions considérables dans la zone actuellement occupée par le château de Dos Hermanas. Vous avez également observé certains éléments correspondant à l'âge du bronze final, étant la pièce la plus pertinente et qui constitue l'un des bijoux de notre musée, l'Estela Guerrero de Montemayor, environ 3000 ans d'antiquité. Appartenant au groupe connu sur le nom d'Estela de Guerrero ou du Sud-Est, liée à la dernière société de l'âge du bronze de la région de Badoit de Guadalquivir, d'Extrémadure et de sud du Portugal, zone de l'ancien Tarteso, pour de nombreux chercheurs, dont le rôle aurait dû être de marquer certains temples de personnes importantes comme une pierre tombale ou bien être des jalons avec fonction délimitation de territoire. Plusieurs éléments gravés sont visibles sur sa surface, mettant en évidence une figure anthropomorphe, humaine ou divinité, portant un casque ou une coiffe avec ce qui ressemble à des cornes accompagnées d'un bouclier, d'armes comme lance, épée et d'outils d'hygiène et de prestige comme un peigne et miroir. À ses pieds apparaît une figure humaine prostrée ou abattue ainsi qu'un animal. Le terme municipal de Montemayor a été un lieu fertile en trouvailles correspondant à la culture ibérique, bien que la plupart des découvertes soient actuellement au musée archéologique provincial. Dans cette première pièce, nous avons plusieurs pièces qui illustrent notre passé ibérique, servant d'aperçu de la salle 4, consacrée à la principale découverte archéologique faite dans la ville, les restes de la charrette ibérique de Montemayor. Dans cette salle, vous pouvez voir les restes de céramique de la période ibérique ainsi que éléments tels que les fusaroles utilisés dans la filature de la laine ou les fibules responsables à la fixation de capes au manteau en broche de type annulaire ibérique. Vous pouvez également voir une tête de cheval en calcaire qui sert d'échantillon aux qualités éteint par la statuaire ibérique dans notre région. Cette culture et d'autres situées au Montemayor dans le musée archéologique provincial montrent l'existence de plusieurs zones de nécropoles avec des tombes monumentales sur les élévations près de Montemayor. Ce sera dans les dernières années de la République au milieu du 1er siècle avant Jésus, dans le cadre de la guerre civile entre les factions structurées autour des figures de Pompée Magnole et Jules César, qui a dévasté toute la région méditerranéenne, quand Ulia apparaît documentée pour la première fois dans les sources littéraires classiques. Et il le fait en tant que protagoniste de deux sièges successifs. Dans l'ouvrage de Beyo Alexandrino ou sur la guerre d'Alexandrie, de paternité incertaine, bien qu'attribuée à Jules César ou à son entourage proche, il est relaté comme le gouverneur césarien d'Espagne ultérieure, province structurée autour de la vallée de Guadalquivir, appelée Casio Longino, était accordu après avoir recruté des troupes tout au long de la province lorsqu'elle a subi un attentat, en raison des taux d'imposition élevés et des accusations de pillage qui lui avaient valu une grande animosité parmi les indigènes, dont il sauva les vies miraculeuses avec les troupes qui lui sont fidèles. Il se dirige vers Ulia, où, grâce à son excellente condition défensive, il a pu résister au siège et César et Severo, jusqu'à l'arrivée du gouverneur d'Espagne Citerior, à calmer les esprits, rétablissant l'ordre dans la province. Par la suite, 2 ans après le premier siège, la situation avait beaucoup changé. César avait prévalu sur la partie adverse dans toute la longueur de la largeur et la largeur du bassin méditerranéen, et même dans les provinces aussi éloignées que l'Arménie et l'Égypte. En fait, Pompée lui-même, Gronde, était mort et ses partisans. Maintenant dirigé par des fils Gneux et Sexte. On prit enfin des barquants à Cordoue, où ils avaient des amis et des gens qui leur étaient fidèles, à tel point que pratiquement tout le territoire dépendant de Cordoue était aligné avec la faction pompéienne. À une exception près, Ulia, dont la légance y restait à César. Pour cette raison, Gagneux, Pompée mobilisa ses légions et encercla Ulia, tandis que son frère Sexto est resté à Cordoue. Comme César était au courant de tous ces événements, il quitte Rome à la tête de ses troupes, débarque en Espagne et établit son champ d'Obulco, actuellement connu sous le nom de Porcuna. De là, il envoya 6 cohortes de renfort à la ville d'Ulia, commandée par un certain Pacieso, qui se réfugiait dans le brouillard intense et si typique de cette région. Ils ont réussi à accéder à l'intérieur de la ville et de la renforcer. De son côté, Jules César se dirige avec le gros des forces vers Cordoue. Avant sa situation, Gneux Pompée a été contraint de lever le siège sévère qui, pendant plusieurs mois, s'était mis en route pour Ulia pour rencontrer son frère. Après ces événements, après une série de mouvements et d'avancées, le sort de la République romaine a été combattu dans les champs de Munda, où le côté pompéien était complètement écrasé. Jules César s'importe comme le vainqueur absolu, comme il peut lu dans le Bellum Hispanense. De nombreux vestiges ce passé guerrier subsistant dans les événements d'Ulia, bien représentés dans le musée, comme les Bolagnos pour le catapulte ou Onagre, points métalliques d'armes à feu, sièges, ainsi que des obus de frondes coulées en plomb. La fidélité à leur cause de la part des habitants d'Ulia, désormais Fidentia, a fait de la famille Julia et avec elle le pouvoir de Rome, récompensant leurs efforts grâce à une série d'avantages et de concessions telles que des exonérations fiscales, une gamme de municipalités, l'octroi de la citoyenneté ou l'expansion du territoire. Ceci est mis en évidence dans les sculptures de vestiges architectaux que vous pouvez observer lors de votre visite. Cet ensemble d'avantages a permis à Ulia de vivre son époque de plus grande splendeur durant les premiers siècles de l'Empire. Comptant sur l'approbation de la famille Julia, maintenant représentée par Auguste et ses successeurs, qu'ils ont a été honoré comme démontré quelqu'un des restes épigraphiques trouvés dans la municipalité.